Comme nous l'avons vu dimanche dernier,
j'attends la première diapo.
Comme nous l'avons vu dimanche dernier, Moïse et Aaron n'entreront pas dans la terre promise. Mais si la mort d'Aaron a lieu rapidement après que Dieu leur ait dit qu'ils n'entreront pas dans le pays promis, celle de Moïse n'arrivera qu'au dernier moment, entre guillemets, juste avant le franchissement du Jourdain. Pourquoi ? Parce que la mission que Dieu a confiée à Moïse n'est pas terminée. Dieu a encore des choses à faire à Moïse. Par exemple, Moïse doit encore amener le peuple aux portes de Canaan, dans les plaines de Moab, en face de Jéricho. Et pour cela, il y aura encore plusieurs combats à mener, contre les Cananéens dans le Négev, contre les Amoréens, les Moabites et les Madianites en Transjordanie. Et puis Moïse a encore une mission de transmission à accomplir envers la nouvelle génération qui n'avait pas 20 ans au moment du refus d'entrer dans le pays ou qui est née depuis. Et ainsi, dans la perspective de la conquête et puis de l'établissement en Canaan, Moïse va leur dire plusieurs choses. C'est grosso modo l'ensemble du contenu du livre du Deutéronome. Il va leur rappeler leur histoire depuis le séjour au pied du mont Sinaï et en particulier leur rappeler le refus d'entrer dans le pays par la génération de leur père, que Dieu a ensuite condamné à mourir dans le désert. Il va leur rappeler aussi les promesses de Dieu, sa fidélité à son alliance, son éducation au désert, sa sévérité, mais aussi son pardon. Il va les exhorter à la confiance, à la consécration, au rejet de l'idolâtrie, à l'obéissance, à la mise en pratique de la loi. Et puis Moïse va leur redonner la loi, leur redire la loi. La loi pour bien vivre dans l'Alliance, la loi pour bien vivre dans le pays promis. Cette redite de la loi occupe environ les deux tiers du livre du Deutéronome. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce livre s'appelle ainsi Deutéronome, la deuxième loi, non pas qu'il y ait deux lois, mais parce que la loi est redite juste avant l'entrée dans le pays promis. Cette redite de la loi culminera par le renouvellement de l'Alliance juste avant donc l'entrée en Canaan. Comme vous pouvez le constater, j'ai été très synthétique, la mission de Moïse est effectivement loin d'être terminée. Mais dans tout ce que Moïse doit encore faire, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée jusqu'ici, enfin il y en a d'autres, mais une chose importante et sur laquelle j'aimerais m'arrêter ce matin. Il s'agit de la mission qui consiste à mettre en place son successeur. La mission qui consiste à préparer la relève. Je vous invite à lire le texte de ce matin qui se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 27. Nous allons lire les versets 12 à 23. Alors j'ai un petit souci avec le... Voilà, c'est bon, merci. Je commence au verset 12. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte dans cette montagne des Abarim et regarde le pays que je donne aux Israélites. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras réuni au tien comme Aaron, ton frère, l'a été, parce que vous avez été rebelles à mes ordres dans le désert de Tsin, lorsque la communauté m'a cherché querelle. Vous n'avez pas montré ma sainteté sous leurs yeux à propos des eaux de Meriba, de Kadesh, dans le désert de Tsin. Moïse dit au Seigneur, « Que le Seigneur, le Dieu du souffle de tout être, nomme à la tête de la communauté un homme qui parte en campagne devant eux, et qui en revienne devant eux, qui les mène en campagne et qui les en ramène, pour que la communauté du Seigneur ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. » Le Seigneur dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun, homme en qui il y a du souffle. Tu poseras la main sur lui. Tu le placeras debout devant Éléazar, le prêtre, et devant toute la communauté, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu lui donneras de ta dignité, afin que toute la communauté des Israélites l'écoute. Il se tiendra devant Éléazar, le prêtre, qui demandera pour lui le jugement de l'Ourim devant le Seigneur. C'est sur ses ordres qu'ils partiront en campagne et qu'ils en reviendront, lui et tous les Israélites avec lui, toute la communauté. » Moïse fit ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça debout devant Éléazar le prêtre et devant toute la communauté. Il posa les mains sur lui et lui donna des ordres, comme le Seigneur l'avait dit, par l'intermédiaire de Moïse. Notre texte commence par le rappel, au verset 12 à 14, de la désobéissance de Moïse et Aaron, qui a eu pour conséquence leur interdiction d'entrer dans le pays promis. Nous l'avons considéré dimanche dernier, donc je ne reviens pas dessus ce matin. Ce rappel qu'il n'entrera pas en Canaan amène Moïse à penser à sa succession. Cela fait 40 ans que Moïse conduit le peuple comme un berger conduit son troupeau. Et la perspective de sa mort prochaine l'amène à penser au peuple qui va se retrouver sans berger, sans chef à sa tête. Et c'est ainsi que tout naturellement, Moïse fait une demande à Dieu. Je relis les versets 16 et 17. Que le Seigneur, le Dieu du souffle de tout être, nomme à la tête de la communauté un homme qui parte en campagne devant eux et qui en revienne devant eux, qui les mène en campagne et qui les en ramène, pour que la communauté du Seigneur ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Que demande Moïse à Dieu ? Il demande deux choses. Premièrement, il demande que ce soit Dieu lui-même qui désigne, qui choisisse son successeur. Moïse aurait pu venir avec une liste de candidats devant le Seigneur, il aurait pu communiquer à Dieu son favori, mais Moïse ne fait rien de tout cela. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il sait que Dieu sait mieux que lui. Mieux que lui ce dont le peuple a besoin, mieux que lui ce qui attend le peuple, et donc mieux que lui la personne qualifiée ou la mieux qualifiée pour cela. Dieu sait toutes choses, pas Moïse. Dieu voit les cœurs, pas Moïse. Et Moïse, plein de sagesse et d'humilité, demande à Dieu de choisir, de désigner celui qui conduira le peuple après lui. La deuxième chose que Moïse demande, c'est que son successeur soit un homme qui conduise le peuple, qui marche à sa tête, en particulier dans la perspective des combats à mener lors de la conquête. Pour que, dit-il, la communauté ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. En d'autres mots, Moïse demande que son successeur soit un berger pour le peuple, comme lui l'a été. J'aimerais juste ici souligner la sobriété de la demande de Moïse. Moïse qui ne vient pas avec une longue liste de compétences à avoir, mais qui se focalise sur l'essentiel. Que cet homme soit choisi par Dieu lui-même et que cet homme soit un berger pour le peuple. C'est sobre, mais c'est l'essentiel. Et si ces deux choses sont réunies, le casting sera réussi. Quelle est la réponse de Dieu ? Sans autre, Dieu désigne Josué. Josué qui n'est pas un inconnu, en réalité, ça fait un moment qu'on en entend parler, qu'il est là dans le récit, mais par petites touches. Josué apparaît pour la première fois, souvenez-vous, après l'épisode du rocher d'Horeb, quand il reçoit la charge de mener le peuple à la bataille contre les Amalécites, pendant que Moïse prie sur la montagne les bras levés. Josué est devenu ensuite rapidement l'assistant de Moïse. Et nous lisons dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 28, qu'il a été assistant de Moïse depuis sa jeunesse. C'est ainsi qu'il a accompagné et attendu Moïse sur la montagne du Sinaï pendant que Dieu lui donnait la loi. C'est ainsi qu'il a accompagné Moïse à l'extérieur du camp, quand il se rendait dans la tente de la rencontre pour parler avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Et puis Josué, nous l'avons vu récemment, a fait partie des 12 explorateurs du pays promis. Et il s'est alors, avec Caleb, révélé comme un homme de foi, encourageant le peuple à la conquête, malgré les apparences contraires, et surtout contre l'avis des 10 autres explorateurs. Josué est désigné par Dieu, et c'est comme une évidence. Car Dieu l'a formé pendant toutes ces années. Il a été à bonne école aux côtés de Moïse. Il a de l'expérience. Il a souvent été aux premières loges. C'est un homme de foi. Et puis, c'est la raison que Dieu souligne dans notre passage, il a le souffle, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Oui, la nomination de Josué est comme une évidence. Et pour qu'elle le soit aussi pour le peuple, Moïse va devoir transmettre le relais devant toute l'assemblée. C'est le sens de l'imposition des mains que Dieu ordonne à Moïse de faire, imposition des mains pour visiblement transmettre la charge et l'autorité. Et puis tout cela sera validé par le jugement de l'Ourim que le prêtre Éléazar demandera à Dieu. L'Ourim et le Toumim, deux objets dont on parle dans l'Ancien Testament, dont nous ignorons la nature, mais on sait que ces objets servaient à faire connaître la volonté de Dieu. Et ainsi, par l'Ourim, Dieu confirmerait aux yeux du peuple que c'est bien Josué qui a été choisi par lui. Aucune ambiguïté ne sera possible. J'aimerais maintenant passer au prolongement de ce texte. Et comme vous pouvez l'imaginer, il concerne en grande partie la question de la succession au service du Seigneur. Mais avant de parler de succession, j'aimerais parler avec deux points sur des généralités concernant le service du Seigneur. Au service du Seigneur, c'est le premier point qui est un point de bon sens, on pourrait dire. Au service du Seigneur, il y a un temps pour commencer et un temps pour s'arrêter. Dit autrement, s'il est important de s'y mettre un jour, de s'engager, de commencer à servir, il est tout aussi important de savoir s'arrêter un jour. Alors je ne parle pas ici du service en général, parce que si nous sommes disciples du Seigneur, nous sommes serviteurs du Seigneur jusqu'à notre dernier souffle. Il n'est pas question de s'arrêter dans cette perspective du service en général. Quand je parle de savoir s'arrêter un jour, je pense ici au service spécifique. Et la réalité, c'est qu'au service du Seigneur, personne n'est nommé à un poste ad vitam aeternam, c'est-à-dire pour toujours. Bien sûr, face à cette question du moment opportun pour s'arrêter, pour passer la main, chacun va placer la barre différemment. Si pour certains le critère important est parfois l'âge, il est pour d'autres, par exemple, souvent la santé. On continue tant qu'on peut. On continue tant que le Seigneur nous donnera des forces ou me donnera des forces. Est-ce vraiment la bonne façon de raisonner ? L'exemple de Moïse, atypique s'il en est, souligne néanmoins qu'au moment de sa mort, c'est-à-dire au moment de passer la main à Josué, Moïse était encore en bonne santé, croyez-le ou pas, malgré son grand âge. C'est ce que nous lisons à la fin du livre du Deutéronome, chapitre 34, verset 7. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut, son œil ne s'était pas affaibli, pas besoin d'aller chez Afflelou, il voyait très bien. Hein, et sa vigueur n'avait pas disparu. Il était en pleine forme. Enfin, en pleine forme. En bonne forme. Autrement dit, Moïse avait encore, et c'est important, il avait encore les capacités physiques pour continuer. Mais Dieu en avait décidé autrement. Et c'est là, ou plutôt c'est bien là, le point important pour notre réflexion. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'âge, la santé, les capacités ou que sais-je, même si toutes ces choses sont importantes et doivent être prises en considération. Ce qui compte avant tout au service du Seigneur, c'est la volonté du Seigneur, n'est-ce pas ? La difficulté, c'est que parfois nous avons du mal à la discerner. La difficulté, c'est que qui dit discernement dit aussi subjectivité. Et la difficulté, c'est que qui dit subjectivité dit aussi avis différent. Quoi qu'il en soit, ce point sur la volonté de Dieu qui prime est essentiel à mes yeux. Et nous devrions tous, à partir du moment où nous commençons un service spécifique, nous placer dans cette perspective, afin d'entrer véritablement dans le projet de Dieu pour nous, afin d'être véritablement conduits du début jusqu'à la fin de notre service, ou de ce service spécifique. Malheureusement, et vous le savez comme moi, le monde chrétien regorge d'exemples à tous les niveaux d'hommes et de femmes qui n'ont pas su passer la main, qui n'ont pas su s'arrêter à temps, qui se sont parfois arrêtés trop tôt. En tout cas, c'est ce qu'il semblerait. Et dont la succession a été difficile et parfois même catastrophique. Et leurs exemples sont autant de signaux lumineux qui nous appellent à la vigilance et à la sagesse, car il y a un moment pour tout, il y a un temps pour chaque chose sur le ciel, et il y a un temps pour commencer un service et un temps pour l'arrêter. Le deuxième point général que je voudrais mentionner sur le service du Seigneur, c'est que nul n'y est indispensable. Il y a clairement ici un lien entre le point précédent et celui-ci. C'est souvent quand on se pense indispensable que l'on a du mal à passer la main. Parfois, il est vrai, la relève se fait attendre. Parfois, il est vrai, on aimerait passer la main, mais il faut faire un mille supplémentaire et parfois un deuxième, un troisième, parce que la relève n'est tout simplement pas là. C'est vrai aussi. Il y a toujours des cas particuliers. Mais la réalité, c'est que tout le monde est remplaçable. Personne n'est indispensable. Pensons un instant à Moïse, un homme aux capacités hors normes, personne n'en doutera. Un homme à la fois remarquable, personne n'en doutera. Un homme que Dieu avait préparé pendant des décennies pour une mission bien particulière. Et le moment venu, la mission terminée, Dieu désigne Josué pour la relève, pour remplacer Moïse. Et il désigne Josué pas pour singer Moïse, non pas pour refaire exactement tout ce que Moïse a fait, mais pour poursuivre le plan de Dieu, pour entrer dans la suite des projets de Dieu, pour entrer dans les bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour Josué, qui étaient forcément différentes de celles qu'il avait préparées pour Moïse. Voyez-vous, c'est là, à mon sens, que réside une des clés d'une transition réussie. S'il avait fallu trouver un autre Moïse, une espèce de sosie, une copie conforme, ça aurait été plutôt mission impossible. Mais le successeur de Moïse n'avait pas besoin d'être un autre Moïse. Il fallait juste qu'il soit la personne préparée pour Dieu pour cette prochaine étape. En réalité, personne n'est indispensable et irremplaçable parce que notre service s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse et qui s'appelle tout simplement le plan de Dieu, et que Dieu est en train d'accomplir avec ceux qui nous ont précédés, avec nous, et puis avec ceux qui nous succéderont un jour. Ainsi, si notre service s'arrête, quand notre service s'arrête, le plan de Dieu, lui, continue. Et Dieu n'est jamais à court de ressources. Il s'est toujours préparé et trouvé des personnes pour accomplir ses plans, pour accomplir la prochaine étape, pour poursuivre son œuvre et l'amener jusqu'à l'accomplissement final, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Comprendre tout cela est fondamental, c'est ma conviction, pour un service de qualité. Comprendre tout cela nous aide à servir sereinement. Comprendre tout cela nous aide, le moment venu, à passer la main. Comprendre tout cela, c'est comprendre que toute chose, mon service comme le reste, est dans les mains de Dieu. Passons à la succession au service du Seigneur. C'est le troisième prolongement que je voudrais faire. La succession, et en particulier, c'est le premier sous-point, il y en aura trois, l'importance de la préparer, de l'anticiper. S'il y a un temps pour s'arrêter, comme nous l'avons vu, il est sage de préparer ce moment, de l'anticiper, et même, si possible, de préparer la relève. L'exemple de notre texte va dans ce sens. Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours ainsi. Parfois, certains quittent un service sans avoir trouvé ou sans qu'un remplaçant ait été trouvé, ou encore sans avoir dit les choses suffisamment à l'avance pour permettre d'y travailler sereinement. Et le résultat, c'est que certaines transitions sont ainsi rendues difficiles, beaucoup plus difficiles. Parfois, il est vrai, la pénurie de personnes qui s'engagent fait que ce n'est pas toujours possible de bien préparer la transition ou de la préparer comme nous le voudrions. Mais si j'ai à cœur le service du Seigneur, si j'ai à cœur le service que j'accomplis pour le Seigneur, et à n'en pas douter, c'est notre cas à tous, alors j'aurai sans doute aussi à cœur de préparer la relève un jour, ou la transition, de faire tout ce qui est en mon pouvoir, quitte à faire 1 ou 2 000 de plus, si c'est nécessaire, pour que ce soit le cas. Je dirais que cette préparation fait partie intégrante de mon service pour le Seigneur. Dans ce point sur la succession au service du Seigneur, j'aimerais ensuite dire quelques mots sur la facilitation ou pas d'une succession. Il y a des successions qui se font plus aisément que d'autres. Et j'aime bien, dans le texte de ce matin, les instructions de Dieu au sujet de tout ce qui devait être fait devant l'Assemblée. Parce que ce qui était important à ce moment-là, au moment de la transition, Bien sûr, c'était Josué, il y aura des paroles spécifiques pour lui. Mais ce n'était plus Moïse, c'était l'Assemblée. C'était l'intérêt de l'Assemblée. C'était que l'Assemblée comprenne et c'était que l'Assemblée adhère à la nomination de Josué. Ainsi, quand Moïse a imposé les mains à Josué, tout le monde, toute l'Assemblée a compris le changement qui s'opérait. Aucune ambiguïté possible. Tout a été fait pour que l'Assemblée comprenne et accepte ce changement de berger. Malheureusement, parfois, dans les successions, même au service du Seigneur, c'est l'intérêt personnel qui prime et qui dicte la feuille de route et qui complique souvent les choses. Ce sont les états d'âme des personnes concernées qui ressortent et qui compliquent les choses. Mais si nous comprenons que ce qui compte, c'est que l'œuvre de Dieu se poursuive, et se poursuive dans les meilleures conditions possibles, alors nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, en mettant nos intérêts personnels de côté, en mettant nos états d'âme de côté, pour faciliter les choses, pour faciliter les transitions, pour que la relève s'opère dans les meilleures conditions possibles. Et pourquoi est-ce que nous agirons ainsi? Parce que nous avons à cœur que le royaume de Dieu vienne, qu'il avance et qu'il arrive à son accomplissement. Dans la préparation de la succession, d'une succession au service du Seigneur, c'est mon troisième et dernier sous-point et dernier point pour ce matin, vous en conviendrez, j'en suis sûr, c'est de mettre le Seigneur dans le coup. À bien y réfléchir, l'inverse serait anormal, serait paradoxal quand même. C'est le service du Seigneur. Est-ce qu'il n'aurait pas un peu son mot à dire? L'exemple de Moïse est éclairant et stimulant. Et nous avons vu comment Moïse s'en remet totalement à Dieu en nous offrant un bel exemple à imiter. Mais pourquoi mettre Dieu dans le coup? Quelles sont vraiment les raisons pour cela? En voici quelques-unes en vrac et je ne développe pas. Pourquoi mettre Dieu dans le coup des transitions de nos services? Parce que c'est fondamentalement son œuvre et pas la nôtre. Parce que lui a les moyens, a des moyens d'agir que je n'ai pas. Parce que lui voit les cœurs et moi pas. Parce que lui tient toutes choses dans sa main et moi pas. Ces quelques réponses, on pourrait en ajouter d'autres, suffisent à souligner l'importance de s'en remettre à Dieu et la folie de ne pas le faire. C'est vrai pour la recherche d'un pasteur, d'un deuxième pasteur, par exemple. Vous me voyez venir, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai aussi pour la recherche d'un nouveau moniteur d'école du dimanche. Il y a un verset dans les évangiles qui me semble pertinent à ce point. Il s'agit de la parole de Jésus qui nous exhorte à prier le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous connaissez ce passage, ce verset. La moisson est grande, dit Jésus. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je crains que trop souvent et spontanément, nous ne réduisions ce verset à la question des postes pastoraux et des postes missionnaires. Je pense qu'on l'a tous fait. Mais le principe qui est là dans ce verset est vrai pour tous les postes à pourvoir dans le royaume de Dieu, au service du Seigneur. C'est vrai dans l'Église pour ceux qui prêchent, mais c'est vrai aussi pour ceux qui font les introductions de culte, pour les musiciens, pour les techniciens, pour ceux qui font l'accueil, pour ceux qui s'occupent des enfants, pour ceux qui font le ménage, pour ceux qui s'occupent des travaux, de la source, d'aide et espoir. Pour tous les services, au service du Seigneur. Tout cela, bien évidemment, à des degrés divers. Mais tout ça, c'est l'œuvre de Dieu Tout ça contribue à l'œuvre de Dieu, à rendre possible l'œuvre de Dieu. Est-ce que je prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson? Est-ce que je prie pour cette recherche d'un deuxième pasteur? Est-ce que je prie pour les postes à pourvoir dans l'église quand je sais qu'un tel veut passer la main à l'école du dimanche, à la garderie, au ménage, au café? Ou est-ce que je prie pour ces choses ou pas? Pour toutes ces transitions qui se font mois, année après année, c'est la vie de l'Église, c'est la vie du royaume de Dieu. Est-ce que je prie pour que Dieu suscite en notre sein la relève, qu'il la prépare pour qu'elle serve ici ou ailleurs, si c'est la volonté de Dieu? C'est notre responsabilité à chacun de le faire. Si j'ai à cœur que l'œuvre de Dieu avance et se poursuive ici et ailleurs, il me faut prier comme une responsabilité, une priorité absolue. Prier le maître de la moisson de susciter et d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il me faut mettre Dieu dans le coup. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.